rendez-vous du Petit Pigeon Voyageur sur RCN, Jean-Marc Armand.
Les rendez-vous du Petit Pigeon Voyageur avec son invité du jour.
Il faut que je dise mon nom.
Ouais, c'est mieux.
Franck Tatton.
Franck Tatton. Alors Franck, tu es animateur fédéral à la Ligue de l'enseignement de Meurthe-et-Moselle et tu es également référent service civique.
C'est ça.
Eh bien, bonjour.
Eh bien, merci de m'inviter à ton émission.
Et bonjour à tous les auditeurs. Alors, Franck, le sujet aujourd'hui, ça va être le lien qui existe entre la Ligue de l'enseignement et le Petit Pigeon Voyageur, à savoir le service civique. On a eu la chance, en passant une annonce via la Ligue, qui est donc agréée au niveau national, d'avoir une service civique depuis maintenant 3 mois, et encore pour 3 mois. Alors, on va aller en première question. Je voudrais connaître un peu l'historique du service civique et puis l'historique en même temps rapidement brossé de la Ligue de l'enseignement, c'est une vieille maison, je crois.
J'ai eu peur quand tu as dit l'historique, parce que si je dois faire l'historique de la Ligue de l'enseignement, il va falloir s'y prendre pour une longue période. Non, la Ligue de l'enseignement, très rapidement, c'est une très ancienne association française qui a été créée au 19e siècle, oui, il y a plus de 150 ans. Mais on ne va pas faire tout l'historique. Principalement, quand même, on peut rappeler les valeurs de la Ligue de l'enseignement. C'est des valeurs d'émancipation des personnes, c'est-à-dire l'éducation tout au long de la vie. C'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis, c'est la laïcité. Moi, je pense qu'on a à peu près couvert le champ. Donc, on ne va pas faire toute l'histoire depuis 150 ans de ces trois valeurs. Mais pour faire un lien rapide avec le service civique, on peut rappeler pourquoi à la Ligue de l'enseignement en général et à la Ligue de l'enseignement de Meurthe-et-Moselle en particulier, on s'est investi sur ce dispositif, parce qu'il permet à des jeunes adultes, puisqu'on peut rappeler que l'âge en fait s'étale entre 16 et 25 ans pour s'engager, il permet donc à ces jeunes adultes de s'engager dans des missions d'intérêt général, au service donc de causes, donc d'intérêt général en France. Donc on les trouve principalement, ces volontaires, qui s'engagent, je le précise aussi, pour une période de quelques mois, hein, c'est entre 6 mois et 1 an, et on les trouve donc principalement dans les associations, mais aussi dans les collectivités publiques, dans les écoles, dans les services hospitaliers, dans les bibliothèques, etc. On peut peut-être, pour faire le lien avec le Petit Pigeon Voyageur, revenir sur ta propre expérience et l'accueil que le Petit Pigeon Voyageur a proposé justement à un ou une jeune volontaire. Il se trouve que c'est une femme qui a répondu à votre offre, mais on peut, si tu veux, revenir là-dessus.
Oui, alors, il faut savoir quand même que le Petit Pigeon Voyageur, il vient de fêter au mois de mai sa première année, sa première bougie. Donc c'est encore une association... bébé, on va dire, hein. Et donc elle se cherche aussi, et puis l'objet social même du Petit Pigeon Voyageur est quand même un objet qui est extrêmement tourné vers l'extérieur et vers l'international, puisqu'en fait l'idée en est venue le 28 février, au bout de 4 jours, on voyait déjà aux actualités la tentative d'invasion de l'Ukraine par les Russes. C'est là que l'idée est venue de créer une association pour apporter un soutien moral et psychologique au peuple en détresse, au peuple malheureusement au pluriel. Voilà comment est né le Petit Pigeon. Et puis très rapidement, on a trouvé que ce serait intéressant de mêler aux seniors du bureau en majorité. On a également une personne d'une quarantaine d'années, hein, dans le bureau. Mais de s'adjoindre un service civique, donc d'avoir de la fraîcheur au niveau des idées, au niveau des pensées, etc. Donc c'est un bon travail intergénérationnel. Ça, je trouve que c'est une des meilleures choses que nous puissions avoir avec le service civique.
Ben ça me conforte dans la vision personnelle et que je peux avoir. Évidemment, quand je dis personnel, c'est la vision qu'on a à la Ligue de l'Enseignement. C'est cette possibilité de permettre à des jeunes, dans cette phase de leur vie où ils ont évidemment déjà une expérience, mais aussi un regard sur le monde qui est souvent différent du regard que peuvent avoir les gens, on va dire, plus établis, hein, les responsables des structures, les gens qui font tourner toute cette économie sociale et solidaire. Et donc le service civique qui, on peut le rappeler aussi, a une douzaine d'années, 13 ans même maintenant, en 2023, est vraiment un dispositif original dans ce sens, puisqu'il n'a pas vocation... au départ, en tout cas dans le texte de la loi qui le définit, il n'a pas vocation à être un système d'insertion socio-professionnelle, c'est pas de la formation, c'est vraiment de vivre une expérience humaine dans un cadre. Alors c'est intéressant l'exemple que tu as fait en décrivant l'environnement de départ. On voit bien que là on a un cadre tout à fait presque atypique, hein, d'une association qui se crée. Donc une association qui se crée, qui n'a pas d'employés, qui est une structure assez légère, mais en fait qui est tout à fait en capacité, surtout par la force, je dirais, de son objet associatif, hein, qui touche la solidarité, des questions évidemment de paix, enfin, etc. Donc des questions fondamentales dans la société et qui permettent donc à une jeune femme, en l'occurrence, de vivre une expérience au sein de cette structure et d'aborder ces questions-là, mais de façon extrêmement pratique, puisque c'est au travers des activités que vous allez développer qu'elle va pouvoir s'exprimer, apporter ses propositions, participer aussi concrètement, parce que derrière toutes ces belles histoires, enfin toutes ces discussions, tout ce projet, il y a aussi des actions qui sont menées. Donc qui dit action dit organisation, logistique, financement, enfin donc toutes ces questions. Donc tout ça pour dire que le service civique qui au départ peut paraître quelque chose d'assez informel, en fait l'expérience montre que c'est potentiellement d'une très grande richesse d'apprentissage pour les jeunes qui y participent et pour les structures qui les accueillent, dans parfois la découverte en fait de nouvelles façons de voir par rapport à leurs projets, par rapport aux compétences qu'ils ont déjà dans leur propre structure.
Oui, puis alors il y a également les rencontres. Je crois que c'est un vivier de rencontres. Je vois l'expérience de notre jeune service civique. Entre parenthèses, je signale une chose pour les auditeurs. La limite d'âge peut être portée à 30 ans en cas de handicap.
Tout à fait. Je vois que tu es un pro déjà.
Mais on se connaît, Franck, on va pas ignorer que nous nous connaissons, mais ce n'est pas le premier service civique avec qui... je ne travaille pas avec un service civique, je suis tuteur d'un service civique. Ce n'est pas un travail, on est bien d'accord. Hein. Et donc, à l'époque d'Orgeco 54, l'Organisation Générale des Consommateurs de Meurthe-et-Moselle, nous avons ouvert des volontaires de services civiques. Et avec de très belles réussites, j'ai une personne en tête là, qui maintenant est DRH en Belgique dans une municipalité de grande taille. Et elle m'a toujours dit que dans son CV, le service civique figurait en bonne place et que ça avait été un atout de son embauche.
Oui, je me souviens très bien d'elle et c'était un excellent souvenir aussi.
Ah oui, j'ai eu de la chance avec ces services civiques. Mais je pense que les échecs doivent être quand même assez rares.
En fait, on peut dire un mot là-dessus, l'expérience, elle est très souvent enrichissante. Je ne dis pas que ça se passe toujours bien, parce qu'évidemment, comme toute expérience humaine, il y a des phénomènes d'adaptation. Il faut trouver le lien entre ces structures. Comme on l'a dit au début, le fait que le dispositif soit finalement très ouvert, ça peut créer aussi un sentiment de flou et ça nécessite que chaque partenaire, parce qu'on est bien d'accord, c'est vraiment pas un travail comme tu l'as très bien dit, chacun doit co-construire au départ la relation, le contenu évidemment de la mission, mais aussi la façon dont on va communiquer, les règles. Alors on est, faut pas se leurrer non plus, on est aussi face à des personnes peu expérimentées dans par exemple dans le travail collectif. Donc il y a souvent des choses comme ça qu'il faut mettre au point. Mais c'est vrai que globalement, le résultat est souvent positif. Et pour conclure sur ce point-là, on voit bien que les structures qui accueillent des volontaires, ils reviennent. C'est-à-dire que je pense que les gens sont pas idiots. S'il y avait vraiment, si c'était un dispositif qui créait beaucoup de difficultés, bah, comme rien ne les oblige à accueillir des volontaires, on aurait du mal à trouver des structures. Or, c'est exactement l'inverse. Les structures qui ont accueilli des volontaires ont trouvé un bénéfice. Avec le recul, on voit bien que quand on analyse de façon un peu plus qualitative, parfois elles n'ont pas forcément trouvé le bénéfice qu'elles attendaient au départ. Mais l'expérience est enrichissante, souvent originale et effectivement souvent positive, même si, comme c'est tout à fait normal dans une relation humaine, on a des règles, des choses à régler, des discussions, voire des négociations ou des médiations à faire pour que tout se passe bien.
On parlera, je pense, dans la deuxième partie, plus longuement, de ton rôle, hein, de ton rôle
oui, avec plaisir.
D'animateur fédéral et de référent service civique, parce que je pense que c'est un métier en lui-même. Vous devez d'ailleurs être assez nombreux à la Ligue au niveau national, comme référent service civique. On a une idée de la quantité de services civiques, enfin de personnes qui se portent volontaires sur un an, par exemple, dans le 54, en Meurthe-et-Moselle.
Alors, les chiffres du service civique, c'est plusieurs... Alors, on dépasse maintenant, de mémoire, hein, parce que là, j'avoue que je ne suis pas venu avec tous mes chiffres, mais je pense qu'on est à peu près à 120 000 volontaires tous les ans en France. Donc c'est un nombre important de volontaires. En ce qui nous concerne, à la Ligue, sur le plan national, on accueille environ 6 000 volontaires. À la Ligue de Meurthe-et-Moselle, pour faire le focus sur notre département, on accueille une centaine de volontaires par an. Et traditionnellement, la Meurthe-et-Moselle, par notamment l'impact du Conseil départemental dès 2010, qui s'était lancé en fait, assez rapidement dans le dispositif, est plutôt une terre où il y a plutôt beaucoup de volontaires. Donc c'est un dispositif qui est très très vivant. Et en plus maintenant, puisque ça fait plus de 10 ans que ça dure, le bouche à oreille fonctionne. Mmh. Tu faisais référence à la volontaire que tu avais eue à Orgeco. On a beaucoup de volontaires qui nous disent « je viens au service civique parce que ma grande sœur, mon grand frère, un copain, une copine m'en a parlé, m'a dit les bénéfices qu'il en avait retirés. » Et du coup, ben, voilà, je pense que l'expérience peut être intéressante pour moi.
D'accord. Bon, on va faire une petite pause musicale. Tu as choisi le morceau qui te plaisait, à savoir de Yves Jamais, Y en a qui ?
J'ai du mal à quitter Morphée pour aller justifier la paye que mon patron peut s'octroyer. Ça n'est pas vraiment que je tienne à continuer de l'engraisser, mais aussi petite soit la mienne de paye, j'en ai besoin pour bouffer. Je fais des trous dans ma ceinture, un par jour pour mieux gérer le minimum que cette enflure se croit obligé de me céder. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qu'auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Je le croise devant l'usine dans sa belle BMW, dans sa Porsche ou bien son Alpine, suivant ce qui l'a motivé. Moi je carre mon vélo depuis qu'ils ont décidé, afin de relancer le marché de l'auto, d'interdire aux poubelles de rouler. Il a les fringues toujours impec, les mains propres et jamais tachées. Moi mes paluches je bosse avec, et mes neurones sont élimés. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qu'auront jamais de problème, et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Il a des potes en politique, des plantes grasses à arroser, de celle qui jamais ne lui piqueront le cœur de son chéquier. Ils ont le cumul sympathique de maire et de député. Ils ont la morale cathodique et le chômage suranné. Peu importe l'ascenseur qu'ils aiment à se renvoyer. Peu importe, puisque l'erreur, c'est qu'on est trop dans l'escalier. Y'en a qui seront jamais dans la merde, y'en a qu'auront jamais de problème. Et ce sont souvent ceux-là même qui nous dirigent et qui nous gouvernent.
Vous êtes sur RCN, l'émission Les Petits Pigeons Voyageurs. Notre invité, Franck Tatton, animateur fédéral à la Ligue de l'Enseignement 54 et référent service civique. Alors on va parler maintenant, on a parlé un peu des services civiques, mais comment fait-on finalement en tant qu'association ou collectivité pour obtenir et trouver un service civique ?
Bon, on va rentrer dans la technique alors. La première chose, c'est que, bon, on a bien... Je pense tous compris maintenant qu'on parle du secteur, du secteur non lucratif, hein, d'intérêt général. Donc déjà, si on est une entreprise, voilà, on peut pas ubériser le service civique. Ensuite, déjà, faut partir d'un projet, c'est-à-dire que le conseil que l'on donne aux structures qui nous contactent, c'est effectivement de réfléchir quels sont les points forts, ce que tu as fait quand tu as présenté le projet du Petit Pigeon Voyageur, quelle est la thématique, quel est l'environnement qu'on peut proposer et comment on peut construire une mission permettant donc à un jeune ou une jeune de s'engager sur cette thématique. Une fois qu'on a ça, parce que bon, c'est pas toutes les structures n'ont pas quand même forcément cette vocation. Une fois qu'on a défini ça, il y a quelques critères effectivement techniques comme tous les dispositifs d'État, puisqu'on va mobiliser de l'argent public. La première chose, faut être agréé. Donc, et là, sans rentrer trop dans les détails, mais il y a deux façons. Donc, soit on va obtenir son propre agrément. Donc, pour le monde associatif, les gens connaissent bien ça, c'est les services dits jeunesse et sport qui donnent ces agréments. Ou le choix que vous avez fait, par exemple, au Petit Pigeon Voyageur, c'est de passer par des structures comme la nôtre qui sont agréées et qui pratiquent ce qu'on appelle, dans notre jargon, c'est jamais très joli, mais on appelle ça l'intermédiation. C'est-à-dire qu'en fait, les volontaires sont en contrat juridiquement avec nous, ce qui leur garantit le cadre juridique et l'agrément. Et puis après, on les met à disposition des structures qui sont affiliées dans notre réseau. Et du coup, on va avoir un rôle d'accompagnement de la structure qui accueille. Cet accompagnement, comme je l'ai dit, va se faire en préalable pour définir le projet. Après, on va construire une mission, donc on va écrire en fait quand même la thématique de cette mission. Après, on va recruter, après toutes les phases que tu as pu connaître. Donc on recrute juridiquement, il y a un contrat, tout ça est fait dans des règles très 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 claires. Et puis après, tout au long de la mission, on va accompagner la structure, puisque les volontaires, dans le cadre de leur mission par exemple, doivent suivre des formations au premier secours, formations à sur des thématiques citoyennes, civiques. Et donc nous, on apporte notre capacité à proposer en fait ces différentes actions qui sont liées aux missions. Et puis après, on va faire de l'évaluation de cette mission. Et puis c'est un processus, l'accompagnement, c'est un processus qui se renouvelle, puisque donc, comme on l'a dit, les missions durent quelques mois. Et souvent, comme les structures y reviennent, la mission d'après, on va accueillir peut-être différemment, On va voir ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. Parfois, on passe aussi à accueillir plusieurs volontaires. Il y a beaucoup de structures maintenant qui accueillent des binômes, etc. Et puis, sa vie, au fil des ans, ça progresse et ça s'améliore.
Je reviens au niveau de l'âge des services civiques et de l'option jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. Ouais. Est-ce que ça répond vraiment à une demande, à un besoin ? Et est-ce qu'il y a beaucoup de personnes, finalement, en situation de handicap qui adhèrent, qui sont volontaires dans un service civique ?
Alors, le choix, il y a deux choses, j'entends deux choses dans ta question. Déjà, le choix politique d'étendre l'âge, de repousser l'âge pour les personnes en situation de handicap, je pense que ça, c'est, j'appelle ça une sorte de compensation. On voit souvent dans les dispositifs des clauses un peu plus ouvertes pour les personnes en situation de handicap. Après, évidemment, les missions sont ouvertes aux personnes en situation de handicap, y compris dans les âges, entre guillemets, normaux du service civique. Après, quant à l'accueil, ça c'est une vraie question. Les gens en situation de handicap connaissent aussi une problématique d'accueil par rapport au service civique. Évidemment pas dans le dispositif en lui-même qui reste ouvert, mais en fait ils sont confrontés aux questions du handicap qu'on retrouve dans la société. Alors je suis pas du tout un spécialiste du handicap, mais ne serait-ce que la mobilité, pour parler des handicaps physiques, les personnes à mobilité réduite, ben malheureusement on a des structures où c'est compliqué de se mouvoir tout simplement dans le cadre de ces structures. Par contre, le dispositif et sa pratique, je dirais, au cours des années, a vraiment identifié cette question-là. Et donc, il y a des groupes, aussi bien, alors là aussi, je ne suis pas un super spécialiste de ça, mais je sais qu'au niveau de l'Agence du service civique qui pilote le dispositif en France, il y a des groupes de travail spécialement sur l'accessibilité du dispositif aux personnes en situation de handicap dans les différentes grosse structure qui s'implique dans ce dispositif. Pareil, il y a vraiment un travail. Nous, à la Ligue de l'enseignement de Meurthe-et-Moselle, par exemple, on a une de nos référentes services civiques qui porte une mission spécifique sur l'accessibilité. Je le disais aussi tout à l'heure, à la Ligue de l'enseignement, en général, on a 6000 volontaires par an, donc c'est quand même des cohortes de personnes importantes, ce qui fait qu'on mesure. Alors, ça paraît un peu froid de dire les choses comme ça, mais c'est vrai que c'est en commençant à mesurer, à évaluer, qu'on peut vraiment se dire si on fait un travail pertinent sur ces questions-là ou si c'est simplement un discours pour faire joli en façade, quoi. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est une difficulté. De la même façon, pour élargir par rapport au problème du handicap, dans la loi du service civique, les missions doivent être par nature accessibles. Donc, je dépasse complètement le cadre des personnes en situation de handicap, mais dire qu'une mission est accessible à tous, prenons l'exemple d'une mission d'aide aux devoirs dans une structure associative quelconque. Si vous êtes vous-même en situation d'illettrisme, allez faire de l'aide aux devoirs. Vous voyez, donc la notion d'accessibilité, elle est aussi parfois à mesurer. Voilà. Donc ce qui est important, c'est, enfin, notre pratique à nous, c'est plutôt quand on est face à des jeunes personnes qui ont envie de s'engager, c'est de travailler de façon lucide avec elles, pour trouver des projets qui sont aussi en lien avec leurs capacités. Alors, parfois, il faut les amener à dépasser leurs capacités, mais il faut faire aussi attention à les mettre dans des environnements. Alors, on a la chance quand même, je trouve, dans l'économie sociale et solidaire, d'avoir beaucoup de structures qui ont potentiellement cette bienveillance. Je veux dire, une collectivité territoriale, bon, ok, elle doit être efficace, mais enfin, elle a quand même aussi une ouverture sur les questions citoyennes, sur justement, etc. Les associations souvent portent aussi ces messages d'intégration des personnes, etc. Donc le handicap et l'accessibilité en général, c'est au cœur du dispositif du service civique.
C'est de bonnes précisions sur cette mission.
En tout cas, si je peux me permettre, et après, je m'excuse, c'est pas correct de te couper la parole, mais en tout cas, notre discours, c'est vraiment que personne ne se freine par rapport à la vision éventuellement négative qu'il peut avoir. Le dispositif a bien montré, parce que là, on fait une évaluation maintenant pertinente, je dirais, sur plus de 10 ans, a bien montré sa capacité à permettre à des jeunes, un autre exemple qui me vient en tête, comme ça je suis désolé, c'est un peu décousu, mais les jeunes décrocheurs scolaires par exemple, qui souvent dans leur parcours à 17, 18 ans, ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences d'échecs, et Mais vraiment, j'en connais beaucoup qui peuvent dire « le service civique a été ma première expérience positive ». Alors, ça ne règle pas tout. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont tout de suite un diplôme. Mais le fait d'avoir dans sa tête un moment de sa vie assez long quand même, avec des gens qui reconnaissent qu'on a été créatif, volontaire, ordonné, c'est quand même des points très très importants pour la personne, quoi, pour sa propre construction.
On n'a pas évoqué les côtés, alors rémunération, mais ouais. c'est pas une rémunération exactement.
C'est une indemnité.
Hein. Voilà, c'est une indemnité. Tu peux nous donner quand même quelques précisions.
Bon, très, très concrètement, maintenant on peut dire qu'un volontaire de base touche deux indemnités. Hein. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, un volontaire va toucher des indemnités pour un montant total mensuel de l'ordre de 600 euros. Voilà, c'est l'ordre de grandeur. Après, ça se partage entre la structure qui accueille, l'État. Voilà. Alors, c'est clairement pas une rémunération. C'est une aide. Pour l'anecdote aussi, on peut dire que la loi, hein, parce que souvent on pose cette question dans nos formations. Enfin, on explique ça aux gens. La loi du service civique n'est pas du tout rattachée à des lois du travail, à des lois de l'éducation. Elle est rattachée au code des armées. Alors ça peut paraître un peu déroutant de le dire comme ça, mais en fait faut considérer l'indemnité comme, nous qui sommes tous les deux d'un certain âge, comme les bidasses autrefois, hein, les appelés touchaient une solde.
Tu m'as devancé.
Les volontaires, ils touchent en fait, alors on n'appelle plus ça une solde quand même, on a démilitarisé le jargon, mais on appelle ça une indemnité de service civique.
Tu m'as devancé parce que j'allais faire un parallèle ou te poser la question du parallèle qu'on pourrait faire entre la première expérience dont tu évoquais, par exemple, pour les échecs scolaires, de ce qu'était le service national, ouais. obligatoire à ouais, l'époque, de ce qu'est aujourd'hui le service civique. Mmh. Alors, bien sûr, il y a énormément de différences, hein, bien sûr. Mais il y a quelque chose par rapport à la notion de première expérience.
Ouais. La préhistoire du service civique, c'est que à l'époque du service national, il y avait des gens qui voulaient pas porter les armes. On appelait ça des objecteurs de conscience et ils s'investissaient dans un service qui était civil, donc puisqu'ils ne portaient pas d'armes. Quand au milieu des années 90, on a arrêté la conscription obligatoire. Évidemment, on a arrêté l'objection de conscience par le fait. Et du coup, le service civique est venu en quelque sorte raviver cette possibilité pour des jeunes de s'engager non militairement dans des actions d'intérêt général.
Ben écoute, Franck, nous arrivons au terme de cet entretien. Je tiens à te remercier. D'être venu nous exposer ton savoir sur le service civique, c'est ton métier quand même, hein, oui. d'animateur. Je rappelle pour les auditeurs qui peuvent écouter cette émission lundi 12 juin de 11h à 11h30 sur RCN 90.7. Tant que nous sommes encore au printemps, parce qu'on va très bientôt basculer vers l'été, n'oubliez pas de commander, si ce n'est pas fait, vos graines de la paix aux petits pigeons voyageurs, de les planter et de les arroser. Personnellement, j'ai fait l'expérience il y a 8 jours, ça y est, les 7 petites graines sont sorties.
Bah moi, j'ai mon sachet dans la poche, là, et je rentre vite les planter dans mon jardin.
Voilà, bah écoutez, je donne rendez-vous aux auditeurs à notre prochaine émission des rendez-vous du Petit Pigeon Voyageur. Merci encore, Franck.
Merci à toi. À bientôt, Jean-Marc.